saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'une saison au théâtre aux explorateurs qui peuplent depuis cette semaine les antennes de France Culture. Le théâtre, lui non plus, ne manque pas de femmes et d'hommes qui arpentent l'inconnu. Mais il y a sur scène certains explorateurs qui prennent peut-être plus de risques que les autres. Ce sont les acteurs qui improvisent face aux spectateurs. Improviser, si l'on en croit la très sérieuse définition du dictionnaire encyclopédique du théâtre, c'est, je cite, « créer à mesure, inventer sans préméditation ». Autant dire qu'il s'agit pour le comédien de se jeter dans le vide, ce qui implique d'explorer à vue et sans filet ou si peu ce qu'il en est de son imaginaire et de sa créativité. Nous ouvrons donc le chapitre « Impro d'une saison au théâtre », encyclopédie en mouvement d'un art à jamais dédié au vertige. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Vous êtes comédienne formée à l'école Jacques Lecoq, détail qui a sans doute son importance. Depuis le début des années 90, vous vous êtes dédiée à l'improvisation théâtrale et depuis 2009, vous êtes membre de la Ligue majeure d'improvisation. Vous venez d'achever les représentations de « Nous aimerons-nous », spectacle élaboré avec la complicité du public et vous tournez actuellement dans « Le dîner », autre spectacle conçu sur le principe de l'improvisation. Bonjour Pierre Mifsud.
Bonjour.
Vous êtes également comédien. On peut vous voir au Théâtre du Rond-Point dans « Conférence de choses, un solo entre guillemets, mis en scène par François Gremaud et qui en 9 conférences vous voit discourir sur tout et rien, un peu comme si vous dérouliez des centaines de fiches Wikipédia que vous auriez mises à votre sauce. Les séquences de jeu sont assez courtes, moins d'une heure, elles sont interrompues par la sonnerie d'un minuteur. Alors peu importe au fond le degré d'improvisation qui vous implique l'un et l'autre dans vos spectacles respectifs. Je pense que entre l'improvisation pure et dure et l'improvisation à base de canevas ou de bâti, il y a sans doute des nuances, mais dans les deux cas, il y a excitation, péril et probablement émulation pour l'acteur. Ma première question est la suivante. Quelle disposition réclame à l'acteur et à l'actrice l'improvisation, Véronique Joly?
Je dirais qu'il faut peut-être déjà être riscophile. C'est-à-dire aimer le risque, aimer se jeter du haut d'une tour sans parachute, peut-être juste du haut d'une chaise, peut-être après chacun à son niveau. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aimer prendre des risques.
Donc il faut aimer avoir peur.
Il faut aimer avoir peur et puis je pense qu'il faut peut-être être un petit peu drogué à l'adrénaline. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y a goûté, ben souvent on y revient, quoi.
Pierre Mifsud.
Alors moi je dirais que c'est aussi pour moi évidemment il y a l'idée du goût du risque mais aussi être développer une certaine disponibilité à être très réactif dans l'instant de ce qui se passe autour de soi avec les autres voilà.
Est-ce qu'une fois qu'on a goûté à ça, à l'improvisation en live devant le public, on peut s'en passer après? Est-ce qu'on peut revenir à une forme de théâtre plus traditionnelle, plus conventionnelle, avec un texte appris et su par cœur?
Ah oui,
oui,
avec plaisir. Justement parce que ce que dit Pierre est très important, c'est être maintenant. Ça apprend vraiment à être maintenant, et c'est très important quand on a un texte su. Un personnage qu'on a, dont on a élaboré, dont on a arpenté, découvert tous les recoins, ben c'est très très important de jouer avec le maintenant, parce que le maintenant, c'est là qu'il vous offre des surprises. Jouer Shakespeare en sachant qu'on est dans le maintenant, c'est s'ouvrir à la surprise du maintenant et à ne jamais jouer la même Gertrude tous les soirs, par exemple. Parce qu'on est dans le maintenant.
Mais est-ce que l'improvisation fait partie de l'apprentissage des élèves dans les cours de théâtre ou les écoles de théâtre ou les conservatoires? Alors, Pierre Mifsud, vous êtes suisse?
Oui, je travaille en Suisse.
J'enseigne l'improvisation en Suisse?
Et j'enseigne justement à la manufacture de Lausanne. Donc,
excellente école.
Voilà. Et c'est vrai que justement avec François Gremaud et Oscar Gomez-Mata, on est des intervenants réguliers et on propose un cours qu'on a appelé présence. Donc ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Véronique, dans le sens où justement il s'agit d'être présent, d'être là. Et dans chaque instant, il y a l'idée d'immédiateté aussi qui est très importante pour nous. Et évidemment, on propose beaucoup d'exercices où l'improvisation a son importance.
Alors donnez-moi un exemple d'exercice d'improvisation, Pierre Mifsud, que vous donnez à vos comédiens. Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un canevas qui est proposé, une sorte de situation. Il y a des exercices très simples pour le début. Le fait déjà d'accepter toutes les propositions que peut faire l'autre. C'est un exercice très simple. Le fait de dire oui à toutes les propositions que l'autre peut faire. Et puis d'argumenter tout le temps et d'essayer d'avancer et de construire une histoire dans l'instant à deux. Voilà, ça c'est vraiment la base de ce qui est le fait d'écouter. Et par rapport à la présence, c'est simplement des fois de traverser l'espace et de s'asseoir face aux autres et d'être là. Et c'est des exercices qui peuvent sembler simples, mais qui au départ sont terrifiants pour la personne. Le fait de dire son prénom, ça a l'air bête, mais de se dire face aux autres, sans le phare d'un personnage ou sans l'alibi du personnage, d'être là, simplement. Et après, on ajoute à ça des contraintes de plus en plus dont il faut tenir compte, justement, dans un travail qui se coud sur place dans l'instant.
On va écouter plusieurs voix, je l'espère, dans cette émission. Et nous allons commencer par ouvrir nos micros à celle d'un comique, entre tous les comiques, qui nous permet de resituer un peu l'origine de l'improvisation. Ce comique, c'est Raymond Devos.
Je suis une espèce, je dis bien toute proportion gardée, parce que Scaramouche, c'était quelqu'un de prodigieux, mais une espèce de Scaramouche. Scaramouche était un homme qui inventait, d'après les événements, d'après les choses qui se passaient autour de lui, et qui inventait ses textes et qui les disait, et qui les écrivait même pas, puisqu'il y a une scène extraordinaire entre Scaramouche et Molière. Un jour, Molière va voir Scaramouche et lui dit « Comment vous faites ?» Molière admire Scaramouche, il lui dit « Comment vous faites pour inventer tout ça ?» Et Scaramouche lui explique. Et à un moment, Scaramouche lui dit « Mais qui êtes-vous » Et Molière décline son identité, il dit « Je suis Molière. » « Ah, il dit, vous êtes auteur, ah bon ? Vous écrivez pour que ça passe à la postérité. Moi, monsieur, je fais ça comme ça. » Et avant de partir, Scaramouche, ça évidemment c'est la légende, donne son miroir à Molière pour que Molière puisse prendre tous les personnages de Scaramouche et les passer à la postérité aussi dans ses pièces. C'est une image merveilleuse.
C'est vrai ce que dit Raymond Devos. L'improvisation, elle naît plus ou moins au XVIe avec la Commedia dell'arte. Ce sont les comédiens italiens qui ont inventé l'improvisation en développant le jeu à partir de canevas et eux, ils étaient masqués. En France, l'improvisation est revenue dans les années 60, mais elle est surtout passée par le Québec et c'est là où intervient la Ligue d'improvisation, puisque je crois que tout ça s'est originé au Québec, Véronique Joly.
Oui, c'est Yvon Leduc et Robert Gravel qui, un jour, se sont rendus compte que les stades étaient plus remplis que les théâtres. Et puis, ils se sont dit, tiens, comment se servir du fait que les stades sont plus remplis que nos théâtres? Et comment faire peut-être que le sport rentre dans le théâtre avec le théâtre? Et ils ont inventé, un soir, tous les deux avec d'autres copains, comme souvent les grandes inventions se font le soir autour d'une bière. C'est vraiment apparemment comme ça que ça s'est passé. Ils ont commencé à imaginer comment ils pouvaient prendre les règles du hockey sur glace et puis faire du théâtre avec ces règles. Et puis ils ont commencé comme ça à faire du théâtre-jeu. C'était des choses qui avaient déjà été explorées avec les règles du basket et tout ça. Lecoq avait déjà aussi exploré. Jacques Lecoq avait déjà exploré ça aussi, comment improviser avec les règles sportives. Jacques Lecoq, c'était un sportif aussi à l'origine. Et donc, il y avait ce goût du jeu. Et au final, ce qui est important à garder, c'est ce goût du jeu, de la règle. Et plus il y a de règles, plus on est libre. Et c'est vraiment ce que disaient Robert Gravel et Yvon Le Duc, c'était on a mis des règles en place, des règles très strictes, parce que plus il y a de règles et plus on est libre.
Ce qui est fou, c'est que cet exercice du match d'improvisation, très codifié d'après ce que vous nous racontez, Véronique Joly, c'est quelque chose qui attire un public au théâtre qui ne va sans doute jamais ailleurs que là. Au théâtre. Ça plaît énormément aux jeunes, les salles sont pleines. C'est incroyable le succès populaire de ces matchs d'improvisation. D'ailleurs, vous allez en donner un le 30 janvier à Paris, à La Cigale.
Oui.
Hein. Qu'est-ce qui plaît aux gens, justement, dans l'exercice de l'impro opéré par des comédiens devant eux?
Alors, il y a quelque chose qui doit être de l'ordre du cirque. Hein, c'est-à-dire qu'on va, au cirque, on aime voir l'acrobate parce qu'on a peur qu'il tombe. Ici, on va voir le comédien en match d'improvisation parce qu'on a peur qu'il tombe. On est avec lui, on le suit et finalement on a peur et on espère toujours le moment où on va tomber, où l'acrobate va tomber. C'est toujours l'ambivalence dans le cirque. Hein,
ils supportent et ils sont un peu vicieux, c'est-à-dire qu'en même temps ils espèrent.
Ils espèrent.
Ils espèrent la chute.
C'est l'espérance de cette chute qui est toujours intéressante parce que nous, ça nous met sur le fil. Et donc, il y a quelque chose de très fort qui se partage avec le public à ce moment-là. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'effectivement, il y a le fait que c'est un jeu, que les gens votent, qu'il y a comme une joute comme ça qui rappelle certainement les jeux du cirque. Encore le cirque, encore une fois le cirque. Les jeux du cirque d'il y a longtemps où c'est le public, au final, qui décide de la vie ou de la mort du comédien.
Est-ce que pour vous, Pierre Mifsud, l'improvisation que vous pratiquez avec parcimonie, hein, c'est pas tout le temps hein, dans la représentation conférence de choses, mais qui est là, est-ce que c'est une façon de bousculer le théâtre, de le déplacer, d'asticoter un peu ses codes justement pour l'amener ailleurs?
En fait, conférence de choses, on est, je dirais, au plus simple du théâtre, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se raconte à des gens dans l'instant où on est. Et conférence de choses, c'est le moyen pour l'interprète, enfin pour moi, d'être vraiment en direct avec toute cette histoire que j'ai à raconter et de la mettre dans le contexte qui se trouve chaque soir différent, parce qu'il y a un public différent, donc et d'adapter. C'est comme un habit qu'on propose sur mesure chaque soir au public qui est là. Et évidemment, il y a des pans entiers qui sont sus, mais ils sont amenés chaque soir de manière très différente. Ça peut créer des rythmes différents. Évidemment, il y a des petits rendez-vous inévitables puisqu'ils fonctionnent, donc on les utilise. Mais il y a des choses qui naissent parce que François Grumeau, donc le concepteur et metteur en scène de ce projet, insiste beaucoup sur cette disponibilité de l'interprète qui doit adapter chaque soir son travail aux gens qui l'écoutent.
Je voudrais m'emparer de cette notion de direct que vous venez de souligner, Pierre Mifsud, pour aller vers une autre notion qui est la notion d'imprévisibilité et vous proposer d'écouter les propos d'un philosophe qui s'appelle Robert Bourne. Il était invité en 2000 au micro de Francesca Piolo sur France Culture et il parlait lui-même du philosophe Alain et il s'exprimait sur la notion d'imprévisibilité.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
La pensée procède par construction des sens. Mais la pensée n'existera pas par décision de la pensée qui passe de l'essence à l'existence. Et ça, c'est essentiel pour l'homme. C'est pour ça que l'imprévisible est au cœur de l'homme. Et c'est pour ça que tout ce que nous prévoyons et que nous programmons, nous sommes à la programmation, pour arriver, va manquer l'existence. Les mondes virtuels sont des mondes illusoires, radicalement illusoires. Cette prospective qui veut prévoir au nom de la prévisibilité, de la décision, de la rationalité, prévoir avant que la chose s'effectue, quitte l'existence, voilà le leurre. Alors, l'extériorité pure de l'existence fait que l'imprévisibilité, c'est pas qu'on ne peut pas prévoir, c'est que tout ce qu'on prévoit, même si cela arrive, est faux. Je prévois ma mort, bien sûr, mais elle n'arrivera pas comme je la prévois. L'existence reste intrinsèquement imprévisible. Il n'y a pas un pas dans l'avenir qui devance le présent. C'est ici que se rassemble tout. C'est ici que cet espace et ce temps se déploient par la pensée. Ceux qui veulent retransporter dans le passé ou dans l'avenir, dans l'origine, vont alourdir le monde pour en faire un destin.
Je trouvais intéressant cette ouverture rapide vers la philosophie. Lorsque ce philosophe, Robert Boone, dit « prévoir, au fond, c'est passer à côté de l'existence », je trouve qu'il donne une assez juste définition du comédien, du jeu, de l'acteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre.
Mais pour moi, c'est quelque chose de très beau. Et c'est vrai, j'étais ému d'entendre ce philosophe parce que je pensais à l'accident, justement. L'accident qui est source de vie, l'imprévu. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est parce qu'il y a du désordre, parce qu'il y a de l'imprévu, parce qu'il y a de l'accident, qu'il y a de la vie, et que les choses évoluent. Et sur un plateau, c'est ça qu'on recherche.
Véronique Joly.
Sur un plateau, si j'ai envie de dire, si on se contente de jouer les choses, c'est mort.
De jouer, donc de reproduire.
De reproduire ce qui est prévu dans la mise en scène, c'est mort. Il faut être la mise en scène. Pour être dans l'accident, effectivement dans l'accident. Il faut l'attendre, se dire qu'il va peut-être arriver. C'est ça qui met la condition de jeu. Pour moi, c'est vraiment ce qui met en condition de jeu. Si on joue la mise en scène, c'est mort. C'est très intéressant ce qu'il dit sur la mort, je trouve.
Je sais que je vais mourir, mais je peux le prévoir,
mais ça ne se produira pas comme ça. Et au théâtre, je sais que je vais jouer une pièce, et si elle se joue vraiment comme je l'ai prévu, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est morte. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui n'était pas prévu et qui m'a bouleversé, bougé, mis en état, fait naître. Voilà, c'est ça qui met en vie.
Savez-vous qu'il y a une étude scientifique qui s'est intéressée à ce qui se passait dans le cerveau des rappeurs freestyle, qui improvisent donc des textes rythmés sur de la musique? Une IRM a été effectuée, elle a démontré que pendant l'improvisation, se désactivait une région du cerveau impliquée dans des tâches telles que la planification et le contrôle du comportement, tandis qu'étaient stimulées des zones impliquées dans le système émotionnel. Je trouve ça fascinant et vertigineux, car je me demande si au fond l'acteur, l'actrice qui improvise n'est pas structurellement, chimiquement, à terme, modifié par justement l'exercice de l'improvisation. Vous vous sentez changé l'un et l'autre une fois que vous sortez du plateau après avoir improvisé pendant une heure et demie, deux heures. Véronique Joly. Vous parliez d'adrénaline tout à l'heure, mais là,
je pense que je me sens plus loin. Je me sens décérébrée.
Au bon sens du terme,
je dirais que c'est cette sensation-là que j'ai, d'être décérébrée. Et puis d'ailleurs, quand je donne des ateliers d'improvisation, on passe pratiquement une heure avec des exercices qui sont juste des exercices que moi j'appelle des exercices de décérébralisation. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal. Qui sont vraiment des exercices pour justement couper ces zones-là du reste du cerveau et les endormir. Donc on va travailler sur des exercices où on va donner des consignes extrêmement strictes, de plus en plus de consignes pour qu'à un moment donné, le cerveau il fasse stop et il déconnecte. Et à ce moment-là, on peut commencer à improviser.
Mais alors, avec quoi improvisez-vous intérieurement? C'est votre imaginaire? C'est votre inconscient? C'est des sortes d'états réflexes? C'est évidemment votre technique, parce que vous avez l'un et l'autre de la technique. Comment l'inconscient, par exemple, intervient-il dans l'improvisation? Au fond, qu'est-ce que vous explorez de vous-même quand vous improvisez? Puisque le thème, c'est aussi ça, c'est aussi celui de l'exploration.
Moi, ce qui se passe quand je suis sur scène et qu'il y a des élans comme ça qui partent, qui se mettent en place, je sens qu'il y a en moi une espèce de calme, quelque chose de très calme où je vois la route. Et en même temps, vous savez, c'est comme quand on est dans une situation d'urgence dans la vie où les choses vont très vite, mais nous, on est dans un autre temps à l'intérieur. Comme par exemple, je suis en voiture et je dois éviter un piéton qui passe. Je dois faire des choix très très rapidement pour éviter de heurter cette personne. Et c'est comme si dans ma tête, chaque opération de manière très claire s'enchaîne, alors que ça va très vite pour d'autres à l'intérieur. Pour moi, c'est très lisible et ça se fait de manière très sereine en même temps. Et en même temps, il y a cette espèce de plaisir immense de voir tout se combiner sous, enfin, dans le corps et dans, parce qu'il m'est arrivé, par exemple, pour des pièces en alexandrin, de bricoler, à cause d'un trou de mémoire, de bricoler des choses comme ça. Mais je suis incapable dans la vie de faire ça, normalement.
Est-ce que vous mettez quand même des limites à là où pourrait vous entraîner l'impro ? Limites esthétiques, limites morales, limites intellectuelles ?
Mais ce que dit Pierre est important, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un pilote. Quoi qu'il arrive, il y a un pilote.
Vous explorez le dédoublement, au fond, si je vous entends bien.
Oui, il y a quelque chose comme ça. Je pense que la personne qui est calme en nous, c'est... Moi, j'ai toujours cette image-là du pilote. Il y a le pilote qui est à l'intérieur. Alors après, tout autour, ça peut partir. Et je sais que ça peut partir puisque j'ai un pilote. Je ne prendrai pas un avion qui n'a pas de pilote. Là, je prends un avion qui a un pilote. Après, l'avion, il va m'emmener où ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelle est la destination de mon billet. Mais j'ai un pilote.
Allez, prends ta biscotte. J'ai de la faire ton éducation de bonhomme. N'essaie pas de me blesser avec une biscotte, hein. Reprends-en une et tiens-la bien cette fois-ci.
Oui.
Ferme, mais pas fatalement brutale.
D'accord.
Allez, tartine la confiture avec la cuillère. D'accord. Tu vas la voir, ta leçon, ma bougresse. Tu vas voir un peu. Je vais te mener la vie dure, moi. Vas-y, non, non. Mais regarde ce que tu fais, mais observe-toi. Pas comme ça, la cuillère, pas à deux doigts. Oui. C'est pas une clochette, la cuillère.
Oui.
Tenue solidement.
Solidement.
C'est pas une cuillère à peau non plus.
Ah, ben je sais bien que c'est pas une cuillère à peau.
Voilà. J'ai reçu la biscotte en pleine poitrine. Oh, vraiment, tu sais, tu es une truie. Tu n'es qu'une énorme truie, voilà ce que tu es.
Je n'y arriverai jamais.
Mais ne pleurniche pas. Mais cesse de pleurnicher pour un oui, pour un non, enfin.
Ben si, quand même, parce que là, j'ai cassé ma biscotte.
Eh ben oui, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. C'est ce que j'essaie de t'expliquer.
Oui.
Tu dois te placer en face de l'événement et te dire très, très lucidement, très, très franchement, ben effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est ça qu'il faut se dire.
Et tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes.
Mais voilà.
On l'a joué tellement souvent et tellement improvisé et tellement renouvelé tous les soirs que se dire que c'est une profession de foi de comédien et c'est une manière de dire comment on peut jouer la comédie pendant 1000 fois, s'amuser 1000 fois avec la salle et improviser tout en restant dans des personnages avec une certaine mesure. Parce que je suis contre, a priori, on pourrait croire que ce que Poiré et Serrault faisaient, c'était d'improviser. Oui, c'était improvisé, mais je me casse toujours la tête à expliquer que improviser dans une pièce pour s'arrêter, pour raconter une histoire marseillaise, c'est de la connerie, n'est-ce pas ? Mais par contre, dans les personnages de la pièce, quand c'est un vaudeville, et en plus quand on est les auteurs, et d'improviser 3 répliques, je trouve que ça fait partie du métier.
Voilà, on avait envie, on est le 24 décembre aujourd'hui, on voulait faire un cadeau aux auditeurs de France Culture avec cette seule captation qui existe de La Cage aux Folles, Jean Poiré, Michel Serrault. Michel Serrault, qu'on entend parler de l'improvisation, qui quand même répond à une éthique. Éthique de l'improvisation. Véronique Joly.
Ça me fait penser à quand on joue le dîner, c'est un spectacle qu'on joue... À l'instant T, c'est-à-dire que c'est un dîner donné entre 5 amis, on improvise, mais on a comme parti pris qu'on improvise, on fait comme si le dîner se passait ce jour-là. Et on a commencé à jouer ce spectacle-là, ils sont arrivés les attentats du 13 novembre. Mmh. Et le lendemain, on a dit on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer parce qu'il fallait qu'on joue ce 14 novembre. Et pour nous, ce 14 novembre n'était pas jouable. On s'est dit, personne ne va s'inviter, on va pas faire de repas, on ne peut pas faire de repas. Et nous, on n'a pas la distance pour. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait sur un plateau, ce qu'on peut y faire et ce qu'on ne peut pas y faire, ce qu'on peut y dire, ce qu'on ne peut pas y dire, et la distance qu'on a ou pas par rapport à la chose qu'on doit traiter. Et c'est vrai que on avait 3 représentations qu'on a annulées parce que pour nous, il nous fallait de la distance par rapport à ce qui s'était passé. Et il était hors de question pour nous d'improviser là-dessus, sur cet événement-là, sans avoir pris la distance théâtrale pour le faire. Parce que c'est du théâtre qu'on fait.
Est-ce que le rire est obligatoirement la sanction, au sens positif du terme, de la bonne improvisation ? Est-ce qu'il faut que ça rie ?
Alors pour l'endroit où pour l'endroit où on se trouve nous dans conférence de choses, c'est pas du tout là que ça se situe, dans le sens où bien sûr les gens peuvent sourire, être avec, rire, se poser aussi des questions, être parfois touché, ému. On est dans, vraiment dans des zones très différentes. C'est pas un stand-up quoi, qui doit avoir son efficacité, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une notion de rythme à respecter. Il y a des alternances, il y a des niveaux de jeu à trouver. Par exemple, c'est un travail qui s'affine de soir en soir, qui se questionne tout le temps. Et c'est dans ce sens-là où il y a beaucoup d'exigences par rapport. Et ce que j'ai entendu chez Michel Serrault, c'est davantage l'idée de rigueur, et cette espèce de rigueur qu'il avait, plutôt que de dire, éthiquement, on peut pas dire ça ou ça.
Il dit quand même, éthiquement, on va pas raconter une histoire marseillaise oui, dans une pièce, de Racine ou de...
Voilà, oui, mais je crois qu'il fait aussi allusion à certains cabotins, parce que, comme on dit, qu'ils tirent la couverture à eux pour mettre en place quelque chose qui va marcher, qui est appris, qui est contrôlé et qui est le contraire de l'improvisation. Mmh. C'est ça, je veux dire, cette éthique, c'est là qu'elle est pour lui. C'est-à-dire, c'est de prendre un risque de belle qualité.
Alors, vous parlez de Cabotin, vous me tendez la perche, Pierre Mifsud, pour la dernière question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On a parlé des qualités, des dispositions que doit avoir l'improvisateur. On ne parle pas des défauts qu'il constitue. Est-ce que l'improvisateur, je vous provoque un peu, est narcissique? Est-il exhibitionniste plus que la moyenne des gens?
Alors, je dirais que s'il est narcissique et exhibitionniste, il est cabotin. Mais un cabotin, c'est pas un improvisateur.
Alors, quels sont les défauts de l'improvisateur, s'il en a?
Alors, moi, je pense que l'improvisateur qui aurait des thèmes qui le resserrent tout le temps, si vous voulez, et puis qui use de certains canevas parce que dans le cas, j'ai eu l'occasion très peu, hein, parce que j'étais pas du tout bon pour ça, de faire des matchs d'impro aussi, où quelquefois on est devant des équipes terrifiantes parce que c'est des machines de guerre. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont à disposition des tas d'outils, donc c'est redoutablement efficace, mais il y a un côté tellement efficace et tellement prévisible du coup qu'on est pour moi dans l'anti-improvisation, ouais. C'est-à-dire que on a des gens, c'est des fauves qui arrivent en face et qui ne veulent pas produire avec vous quelque chose, inventer, mais qui veulent vous anéantir. Donc évidemment, on est face c'est vraiment le combat et là dans ce sens-là, c'est très pénible à vivre des fois. Moi, je l'avais mal vécu par exemple. Mais après, c'est vrai que avoir des outils, c'est tout à fait différent que d'avoir une machine de guerre.
Mais c'est vrai on pourrait dire que le travers serait de rester toujours dans sa zone de confort. Et ça peut être très facile de rester dans sa zone de confort. Ouais. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir dans Une Saison au Théâtre. Je rappelle que Conférence de Choses se joue au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 31 décembre. Le spectacle part ensuite pour une longue tournée en France et en Suisse. Quant au dîner, lui aussi part en tournée un peu partout en France jusqu'au mois de juin. Vous trouverez tous les renseignements sur le site d'Une Saison au Théâtre, émission que vous pouvez et même que vous devriez podcaster sur le site de France Culture.
And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow.
Inès Duperron, Pierre Faucillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Très bon Noël à toutes et à tous. Il est bientôt 16h, c'est le moment de retrouver Aurélie Lunon et son magazine de cause à effet.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.